Dans le passé, nous avons donné ce prix notamment au président égyptien Sadat, n'est-ce pas? L'arabe qui va jusqu'en Israël et qui fait la paix avec les Israéliens. Il était si courageux qu'il en est mort. Nous l'avons donné au président sud-africain Frédéric de Klerk, 6 mois avant qu'il ait le Nobel. Parce qu'on s'est dit, c'est quand même formidable. Voilà un produit de l'establishment pro-apartheid qui démène l'apartheid. Et vous voyez déjà à travers ces choix qu'il s'agit d'un prix qui récompense des gens qui n'hésitent pas à aller à contre-courant de l'histoire dominante du moment. Et naturellement, parmi les gens qui ont fait preuve de courage politique, qui n'ont pas hésité à chambouler la donne, pour parler familièrement, Jean-Paul II arrivait tout à fait en tête de liste, pour son œuvre spirituelle que je ne juge pas, chacun appréciera, mais pour son œuvre terrestre qui est immense.
Ce prix vient récompenser son œuvre entière au niveau international ou particulièrement cette action à contre-courant contre la guerre en Irak ?
Non, il s'agit d'abord de récompenser la totalité de ses prises de position en matière internationale, qu'on les approuve ou pas. Il ne faut pas oublier que nous vivons dans un monde où l'accommodement avec l'agresseur ou l'oppresseur est souvent considéré comme une forme raisonnable de comportement, parfois même de sagesse. Et bien dans ce monde, le pape n'a pas hésité à allumer la mèche qui allait contribuer à faire éclater le communisme en Europe et à désintégrer aussi l'Union soviétique, n'est-ce pas ? Vous vous souvenez de sa phrase en 1978 ? N'ayez pas peur. Eh bien, ce n'ayez pas peur, cet appel à la résistance qu'a lancé le pape, en quelque sorte, à la Pologne, c'est un appel qui a porté bien au-delà de la Pologne, qui a été contagieux. Et je trouve que le pape avait d'autant plus de mérite à le faire que l'ambiance générale n'était pas à la contestation du statu quo. Puis, il y a une deuxième catégorie d'action du Saint-Père, c'est sa défense des droits de l'homme partout dans le monde, contre les tyrannies, les autocraties, les dictatures, qu'elles soient de droite ou de gauche. Le Saint-Père, on l'a vu partout, on l'a vu faire la leçon à Pinochet, mais on l'a vu faire la leçon à Castro, à Stroessner, à Duvalier, à Marcos, à tous, il a rappelé qu'il n'y a pas de symétrie entre le bien et le mal, et qu'aucun régime n'est éternel, et qu'après tout, la finalité la plus noble de la politique, la seule finalité de la politique et du pouvoir, c'est l'homme.
Peut-être que cette manière d'aller à contre-courant, c'est aussi de parler souvent de l'Afrique au moment où finalement on la laisse un peu de côté.
Absolument. Donc il s'est opposé aux victimes du communisme et du socialisme, mais il s'oppose aussi aux victimes de ce qu'on pourrait appeler l'ultralibéralisme. Il pense que, comme je l'ai dit, la finalité de la politique étant l'homme, cet homme ne doit jamais être le rouage d'une machine qui réprime. Et il faut d'abord penser à l'homme avant de penser au système. Vous savez, avant Jean-Paul II, l'Église discutait avec les régimes. Et avec Jean-Paul II, par-delà les régimes, elle discute avec les sociétés civiles et avec les gens. Et on retrouve une forme d'authenticité de la politique. Après tout, la politique, c'est fait pour les gens. Et cette grande leçon simple, je trouve que le Saint-Père l'a redécouverte aux yeux du monde. Il ne faut pas oublier non plus qu'il est le réconciliateur des religions, d'une certaine manière, n'est-ce pas ? C'est que le Vatican a reconnu Israël sous son pontificat. Vous savez que le pape n'a pas eu le prix Nobel de la paix. Ben, nous lui donnons en quelque sorte le prix Nobel de la paix.